Chapitre 15. L'homme de l'île. Du flanc de la colline, qui à cet endroit est abrupte et pierreuse, une petite masse de gravier se détache pour tomber en crépitant à travers les arbres. Jim lève les yeux et voit une silhouette qui bondit se cacher derrière un tronc. Un ours? Un homme? Un singe? La forme semble être brunâtre et velue. Sous le coup de cette nouvelle terreur, Jim reste un moment pétrifié. Toute fuite est impossible. Derrière lui, les assassins, et devant, cette chose indéfinissable. Préférant Silver qu'il connaît à cette créature des bois, Jim fait demi-tour. Mais elle, courant de tronc en tronc, aussi vive qu'un daim, lui coupe la route. L'idée qu'il a sans doute affaire à un cannibale décide Jim à lutter. Son pistolet à la main, il se dirige vers son poursuivant qui, en le voyant venir, se jette à genoux en tendant des mains suppliantes. « Qui êtes-vous ? » demande Jim. « Ben Gunn, » répond l'autre, d'une voix qui grince comme une serrure rouillée. « Je suis le pauvre Ben Gunn. Je n'ai pas parlé à un chrétien depuis 3 ans. » L'homme est vêtu de lambeaux, toile à voile et vêtements attachés ensemble de façon incongrue par des boutons, des bouts de ficelle et des brins de jonc. « Vous avez fait naufrage ?» demande Jim. « Ils m'ont abandonné. » En quelques mots, Ben Gunn raconte à Jim la triste existence qu'il a menée seul sur l'île. « Mais j'ai réfléchi, dit-il. Je suis revenu à la religion et je boirai plus de rhum. Et puis, je suis riche. Mais dis-moi, c'est pas le vaisseau de Flint, n'est-ce pas ?»« Flint est mort, mais plusieurs de ses anciens matelots sont à bord, dont un avec jambes de bois. »«
Long John ! C'est pas lui qui t'envoie au moins ?»
Pour rassurer Ben Gunn, Jim lui raconte toute son aventure depuis le début. « Crois-tu que tes amis se montreraient généreux si on les aidait ?» demande Ben Gunn. Comme Jim répond par l'affirmative, Ben Gunn le prie d'aller leur dire qu'il était sur le navire de Flint quand il a enterré le trésor. 3 ans plus tard, il est retombé sur l'île avec un autre bateau. « C'est l'île où Flint a caché son trésor, » a-t-il dit à ses camarades. Du coup, ils l'ont cherché pendant 12 jours, sans rien trouver, et de rage les autres l'ont laissé là. « Mais comment revenir à bord ?» s'inquiète Jim. « J'ai un oracle que j'ai construit. » Juste alors, l'île retentit d'un coup de canon. « La bataille vient de commencer !» Jim court vers le mouillage, Ben Gunn à ses côtés. Au bout d'un moment, on entend une décharge d'armes légères. Et soudain, à un quart de mille devant, Jim voit l'Union Jack qui flotte au-dessus d'un bois. Quatrième partie, le Fortin. Chapitre 16. Récit continué par le docteur. Comment le navire fut abandonné. Il était environ 1h30, 3 cloches en langage de marin, quand les 2 chaloupes ont quitté l'Hispaniola pour aller à terre. Le capitaine, le chevalier et moi-même discutions la situation dans la cabine. S'il y avait eu un souffle de vent, nous serions tombés sur les 6 mutins restés à bord. Nous aurions largué la mare et pris le large. Mais le vent faisait défaut. Et pour rendre totale notre impuissance, Hunter est descendu annoncer que ce Jim Hawkins s'était faufilé dans une des embarcations pour aller à terre avec les autres. Nous n'avons jamais songé à douter de Jim Hawkins, mais nous avons craint pour sa sécurité. Avec des hommes dans l'état d'esprit où ils étaient, il a semblé qu'il y avait peu de chances de revoir ce garçon. Nous avons couru sur le pont, la poix bouillonnait dans les joints, la puanteur maligne de l'endroit m'a soulevé le cœur. Si jamais on a reniflé la fièvre et la dysenterie quelque part, c'est bien dans cet abominable mouillage. Les 6 forbans étaient assis à grommeler dans l'ombre d'une voile, à l'avant. À terre, nous pouvions voir les chaloupes qu'on avait amarrées tout près de l'embouchure de la rivière. Un homme était assis dans chacune. L'un d'eux sifflotait, Lily Boulero. Attendre était éprouvant, et il fut décidé que Hunter et moi irions aux nouvelles à terre avec le canot. Les chaloupes s'étaient déportées sur la droite, tandis que Hunter et moi avons ramé tout droit, dans la direction du fortin d'après la carte. Les 2 hommes de garde ont paru effarés de nous voir apparaître. Lily Boulero s'est interrompue, et j'ai pu voir qu'ils discutaient de ce qu'ils devaient faire. S'ils étaient allés prévenir Silver, tout aurait peut-être tourné différemment. Mais ils avaient des ordres, je suppose. Ils ont décidé de rester tranquillement assis où ils étaient, et Lily Boulero a repris. La côte présentait une légère courbure, et j'ai gouverné de façon à la mettre entre eux et nous. Avant même de débarquer, les chaloupes n'étaient plus en vue. J'ai sauté à terre et je me suis mis en marche aussi vite que je l'ai osé, avec un grand mouchoir de soie sur mon chapeau pour la fraîcheur et une paire de pistolets armés pour la sécurité. Je n'ai pas fait plus de 100 yards avant d'atteindre la petite forteresse. Voici comment elle se présentait. Une source d'eau claire jaillissait jusqu'au sommet d'une butte. Sur la butte, autour de la source, était érigée une robuste construction en rondin capable d'accueillir 40 personnes, à condition qu'elle se serre un peu. Les murs étaient percés de meurtrières de tous les côtés. Tout autour se trouvait un espace dégagé. L'ensemble était composé par une palissade de 6 pas de haut sans porte ni ouverture, trop solidement plantée pour être renversée, à moins d'y consacrer beaucoup de temps et d'efforts, et trop basse pour abriter les assiégeants. Les occupants du fortin avaient tous les avantages. Ils étaient à l'abri et tiraient les autres comme des perdrix. Tout ce qu'il leur fallait, c'était une bonne sentinelle et de la nourriture, car à moins d'une surprise totale, on pouvait tenir la place contre un régiment. Ce qui m'a tout particulièrement séduit a été la source, car si nous disposions d'assez de place dans la cabine de l'Hispaniola, avec quantité d'armes et de munitions, et de quoi manger, du vin excellent, il y avait juste une chose que nous avions négligée. Nous n'avions pas d'eau. J'y songeais quand a retenti dans toute l'île le cri d'agonie d'un homme. J'avais déjà eu affaire à des morts violentes. J'ai servi sous son Altesse royale, le duc de Cumberland, et j'ai été blessé à la bataille de Fontenoy. Mais j'ai senti mon pouls s'accélérer. C'en est fait de Jim Hawkins. Telle a été ma première pensée. C'est une chose d'être un ancien soldat. C'en est une autre d'avoir été docteur. Il n'y a pas de place pour les atermoiements dans notre profession. Je me suis décidé sur le champ. J'ai couru au rivage et j'ai sauté à bord du canot. Par chance, Hunter était très bon rameur. Nous avons filé sur l'eau. Bientôt, le canot a accosté et je suis remonté à bord. J'ai trouvé les autres choqués, ce qui était bien naturel. Le chevalier était assis, blanc comme un linge, à songer au mauvais pas dans lequel il nous avait mis, le pauvre homme. Et l'un des 6 matelots n'allait pas beaucoup mieux. « Il y a un homme qui est nouveau dans ce genre d'affaires, » a dit le capitaine Smollett en le désignant du menton. Il a manqué s'évanouir en entendant le cri. Un petit coup de gouvernail et le gaillard nous rejoindrait. J'ai expliqué mon plan au capitaine et nous avons fixé entre nous les détails de sa mise en œuvre. Nous avons posté le vieux Redruth dans le passage entre la cabine et le gaillard d'avant avec 3 ou 4 mousquets chargés et un matelas en guise de protection. Hunter a amené le canot sous la poupe et Joyce et moi nous sommes mis à le charger de barils de poudre, de mousquets, de sacs à biscuits, de fûts de porc, d'un tonnelet de cognac et de ma précieuse trousse à pharmacie. Entre-temps, le chevalier et le capitaine sont montés sur le pont où ce dernier a interpellé le barreur qui était l'homme le plus gradé à bord. « Monsieur Hans, a-t-il dit, nous sommes 2 avec une paire de pistolets chacun. Si l'un d'entre vous fait un signal, quel qu'il soit, il est mort. » Ils ont été sérieusement déconcertés et après un bref conciliabule, ils sont descendus précipitamment par le capot avant dans l'idée de nous prendre à revers. Quand ils ont vu que Redruth les attendait et que la galerie était barrée, ils ont vite mis cap arrière et une tête est réapparue sur le pont. « Restez en bas, chien !» a crié le capitaine. La tête a disparu à nouveau. Et pendant un certain temps, nous n'avons plus entendu ces 6 marins au courage très mesuré. À ce moment-là, en y jetant nos affaires, comme elles venaient, nous avions chargé le canot autant qu'il semblait raisonnable. Joyce et moi sommes sortis par la poupe et nous sommes repartis pour le bord aussi vite que nos rames le permettaient. Ce second voyage a passablement intrigué les gardes sur le rivage. Lily Boulero s'est interrompue une nouvelle fois. Et juste avant que nous ne les perdions de vue derrière la courbure de la côte, un des hommes a sauté à terre et a disparu. J'ai failli changer mes plans et détruire les chaloupes, mais j'ai craint que Silver et les autres ne soient à proximité et que tout ne soit perdu pour avoir voulu trop gagner. Il ne nous a pas fallu longtemps pour toucher terre, au même endroit que la première fois, et transporter les provisions dans le fort. Nous avons fait le premier voyage tous les 3 avec chacun un bon chargement que nous avons lancé par-dessus la palissade. En laissant Joyce pour les garder, il était seul certes, mais avec une demi-douzaine de mousquets, Hunter et moi sommes retournés au canot prendre un nouveau chargement. Nous avons répété l'opération, sans nous accorder un instant pour souffler, jusqu'à ce que toute la cargaison se trouve transférée. À ce moment-là, les 2 serviteurs ont pris position dans le fortin, et moi, en tirant de toutes mes forces sur les rames, je suis revenu à l'Hispaniola. Que nous ayons risqué un second voyage de transport semble plus audacieux que cela l'a été en réalité. Ils avaient l'avantage du nombre, certes, mais nous avions celui des armes. Aucun des hommes à terre n'avait de mousquet, et avant qu'ils arrivent assez près pour tirer au pistolet, nous devions pouvoir régler leur compte à une demi-douzaine d'entre eux au bas mot. Le chevalier m'attendait à la fenêtre de la poupe. Son moment de faiblesse avait complètement passé. Il a pris l'amarre, l'a attachée, et nous nous sommes mis à charger le canot. Il y allait de nos vies. Du porc, de la poudre et des biscuits, telle était la cargaison avec seulement un mousquet et un sabre pour le chevalier, moi, Redruth et le capitaine. Le reste des armes et la poudre, nous l'avons envoyé par deux bras et demi de fond. Nous avons pu voir le fer briller au soleil, loin au-dessous de nous sur le fond sablonneux. À ce moment-là, la marée commençait à s'inverser pour devenir descendante et le bateau tournait autour de son ancre. On entendait des voix appeler du côté des chaloupes et même si cela nous rassurait sur le compte de Joyce et Hunter, qui se trouvaient plus à l'est, c'était le signe qu'il était temps d'y aller. Redruth a fait retraite depuis la galerie pour sauter dans le canot que nous avons amené contre le bord, une position plus commode pour le capitaine Smollett. Hé, matelot, a-t-il lancé, vous m'entendez? Pas de réponse depuis l'avant. Vous, Abraham Gray, c'est à vous que je parle. Toujours pas de réponse. Gray, a repris Mr. Smollett en élevant un peu la voix, je quitte ce navire et je vous ordonne de suivre votre capitaine. Je sais que vous êtes un homme honnête, au fond, et j'ose ajouter qu'aucun de vous n'est aussi mauvais qu'il le prétend. J'ai ma montre à la main. Je vous donne 30 secondes pour me rejoindre. Il a fait une pause. « Venez, mon brave, » a continué le capitaine. « Ne soyez pas aussi long à vous décider. Je risque ma vie et celle de ces excellents messieurs à chaque instant. » Soudain, il y a eu un bruit de bagarre et Abraham Gray a surgi, la joue entaillée par un coup de couteau. Il a trotté vers le capitaine comme un chien qui répond à un coup de sifflet. « Je suis avec vous, monsieur, » a-t-il dit. L'instant d'après, lui et le capitaine se sont laissés glisser dans le canot et nous nous sommes éloignés à toute rame. Nous avions quitté le bateau sans dommage, mais nous n'étions pas encore à terre. Dans le fortin. Chapitre 17. Le dernier voyage du canot. Ce cinquième voyage est différent des autres. Le canot est surchargé. 5 hommes plus la poudre, le porc et les biscuits. À l'arrière, l'eau affleure le bord. En plus, la marée descend. Un fort courant hérissé de vaguelettes le pousse vers l'ouest, à travers le mouillage, puis vers le sud en direction du large. « Je ne peux pas garder le cap sur le fortin !» s'écrie le docteur, qui est à la barre, tandis que les autres rament. « Il faut tenir !» réplique le capitaine. Le courant va bientôt mollir et nous pourrons alors longer la côte. Il a raison. Bientôt le canot reprend sa progression vers le bord. Mais tout danger n'est pas passé. « Le canon !» s'exclame soudain le capitaine. « Tout le monde dans le canot !» lève la tête. « Lève la tête ! Tout le monde dans le canot !» lève la tête. Sur l'Hispaniola, les 5 mutins s'affairent autour du canon qu'ils ont libéré de sa bâche de protection. « Israël était le canonnier de Flint !» dit Gray d'une voix étouffée par l'inquiétude. Aussitôt, le docteur remet le cap droit sur le fortin, ce qui présente l'inconvénient d'offrir le côté du canot comme cible et non plus son arrière. « Monsieur Trelawney, demande le capitaine, vous qui êtes le meilleur tireur, voulez-vous, s'il vous plaît, m'abattre un de ces fiévés coquins ? Hans, de préférence. » Le canot s'immobilise. Le capitaine, le chevalier, épaule son mousquet et tire. Par manque de chance, Hans, qui se trouve près de la gueule du canon, se baisse au même moment. C'est un autre ruffian que la balle atteint. Son cri de douleur est repris en écho sur la rive par la troupe des pirates qui sort des bois. Certains sautent aussitôt dans une des chaloupes, d'autres se mettent à courir pour faire le tour par le rivage et couper la route aux occupants du canot. Sur l'Hispaniola, les mutins, qui n'ont même pas accordé un regard à leurs camarades tombés, sont prêts à tirer de nouveau. « Nagez en arrière !» crie le capitaine. Le canon retentit presque au même instant. Le boulet passe par-dessus du canot, au-dessus du canot, mais son souffle suffit à le renverser. Il sombre par l'arrière, très près du bord, heureusement. Ses 5 occupants en sont quittes pour un bon bain et gagnent le rivage en pataugeant. Sauvés ? Pas encore. Des voix se font entendre non loin de là. La 12 douzaine de pirates qui sont partis à travers bois est sur le point d'attaquer. Dans le fortin, Hunter et Joyce, qu'on a laissés de garde, auront assez de bon sens et de courage pour tenir ferme ? Très inquiet à l'idée qu'ils pourraient se retrouver coupés du fortin, le docteur et ses amis s'empressent de quitter le rivage, mécontents d'avoir perdu le petit canot et une précieuse quantité de poudre et de vivres.